Ils nous émerveillent par leur plumage, leur chant, leur grâce et leur ingéniosité, leur résistance aussi à toutes sortes de conditions. À la chronique À vol d'oiseau cet été, donnons-nous l'occasion de nous instruire grâce à l'expérience et aux connaissances d'ornithologues aguerris. Je suis en compagnie aujourd'hui de Gérard Cyr qui va nous parler des habitats. Monsieur Cyr, bonjour.
Bonjour.
On a parlé l'autre jour des territoires, on a compris que on a besoin de délimiter les territoires pour installer le nid. Mais plus grand que ça, il y a les habitats qui sont correspondants à différentes espèces d'oiseaux. Et donc, l'habitat, ça peut être bien, bien des lieux, là. J'aimerais que vous nous disiez, en quelques mots, des grandes familles d'habitats pour les oiseaux.
Alors, c'est sûr, comme on a expliqué, là, chaque oiseau a sa niche écologique. Puis on parle des milieux champêtres, les champs, les bordures de champs, ça peut être intéressant pour différentes espèces d'oiseaux. On parle des milieux boisés, des milieux forestiers, des boisés de feuillus matures, des boisés de conifères matures. Ce sont des endroits où est-ce qu'il y a des espèces différentes qui vont nicher. On parle aussi des milieux humides, on parle des marais, des petits lacs.
L'eau douce, l'eau de mer, tout ça.
Exactement. Mm-hmm. Tout ça, c'est des habitats. L'eau de mer, on a en plein milieu du fleuve des colonies d'oiseaux qui nichent sur des rochers en plein milieu du fleuve. Mais c'est leur habitat. Il y a besoin de ces genres d'habitats-là pour nicher.
Alors, on parle de la campagne, on parle de la forêt, on parle en gros là, du milieu marin. On peut s'imaginer qu'en 1700, il n'y avait pas trop de problèmes pour les oiseaux. En 1800, probablement pas non plus. Mais là, en 2017, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose de différent pour nos oiseaux.
Oui, absolument. Il y a eu avec le temps, avec l'arrivée des gens chez nous, si on parle de siècles, il y a eu des modifications qui ont fait qu'il y a eu du déboisement pour être capable de s'installer. Donc, les espèces qui avaient besoin de plus d'espace, les oiseaux champêtres, ils ont avancé vers le nord.
Oui, ils ont eu de la place.
Il y a eu de la place, ils ont été capables de s'installer, puis beaucoup de cultivateurs, ils coupaient le bois pour justement être capables de cultiver, mais ça profitait à beaucoup, beaucoup d'espèces champêtres. Mais depuis certains temps, si on regarde ça, depuis 40 ans, là, il y a certaines espèces d'oiseaux, si on parle du groupe d'oiseaux qui sert des champs pour nicher, il y a une diminution d'à peu près 75%. De diminution de l'ensemble.
Ah, ça, c'est beaucoup. On parle des oiseaux comme les hirondelles.
Oui, l'hirondelle rustique. Les hirondelles, les oiseaux qui se nourrissent de moustiques en vol, ça a diminué beaucoup. On parle du goguelu des prés, de la sturnelle des prés, des oiseaux qui sont directement connectés à ce genre d'habitat-là. Il y a eu des problèmes avec ça.
Alors, on a eu la période d'agriculture, et puis là, est-ce qu'on est en train d'identifier, par exemple, que les gens qui achètent les terres agricoles pour bâtir des maisons, ben finalement, c'est plus un milieu champêtre. Est-ce que c'est quelque chose comme ça?
Oui, c'est quelque chose comme ça. Il y a aussi l'intensification des cultures. Comme un exemple, les champs qu'on cultive du blé d'Inde à la grandeur du champ, c'est superbe. J'aime beaucoup le blé d'Inde, sauf que pour ces espèces-là qui nichaient dans les champs comme ça, c'est pas bon.
C'est trop spécifique.
C'est trop spécifique. Ouais. C'est très peu propice pour l'industrie des oiseaux, là.
Alors, on identifie quel problème particulier, si vous voulez bien y aller, M. Cyr?
Oui, mais c'est ça. Il y a eu, à un moment donné, des pesticides qui ont été utilisés.
Oui.
Veux pas, les pesticides, moins de nourriture pour les oiseaux. Il y a moins de moustiques, moins de nourriture pour les oiseaux. C'est sûr qu'on est en train de regarder pour, par exemple, les rondelles rustiques. Avant ça, il y avait des vieux bâtiments de ferme dans les champs, est-ce que c'est qu'il y avait des portes toujours ouvertes, puis eux autres, il y a besoin de nicher à l'intérieur des bâtiments. Mais là, on est en train de regarder pour construire des genres de bâtiments où est-ce qu'ils sont capables, spécifiquement pour, on appelle ça des nichoirs pour les hirondelles rustiques, spécifiquement pour qu'ils soient capables d'aller nicher là. Autrement dit, pour remplacer, qu'est-ce qu'on a perdu avec
la modernisation
des constructions, ces choses-là. Là.
Alors, on parle maintenant du milieu boisé. Quels sont les types d'oiseaux qu'on retrouve là et quels sont leurs problèmes?
Mais au niveau des milieux boisés, comme les boisés matures, lorsqu'on coupe, lorsqu'on on parle de coupe à blanc ou ces choses-là, là, c'est sûr que les oiseaux qui utilisent ça, comme les gens de paruline qui vont nicher dans les milieux forestiers, c'est savoir, eux autres, ils vont être obligés de trouver un autre endroit pour nicher, mais c'est pas vraiment, comment je pourrais dire ça, le principal problème qu'on peut trouver lorsqu'on parle de déforestation, c'est surtout dans les milieux où est-ce qu'il s'en va passer l'hiver. Si on parle de la forêt amazonienne, par contre,
oui, oui.
On se rend compte que...
La diminution de population des oiseaux provient de leur zone du sud.
Une partie peut provenir
oui.
de là.
Oui.
Sauf que ce que j'essaie d'amener, c'est que peu importe la construction qu'on fait, peu importe où est-ce que c'est qu'il y a des forêts, si on construit des choses, on affecte invariablement des habitats propices.
Alors, en gros, on parle du milieu champêtre qui a quand même fait ses prises de conscience. On a touché un petit peu au milieu boisé, mais celui qui est très, très, très important à vos yeux, Gérard Cyr, c'est surtout le milieu humide. Et on parle de quelle variété d'oiseaux, là?
Bien, tous les milieux humides, tous les oiseaux comme les râles, les marouettes, le petit blongio, qui est un oiseau je dirais à caractère particulier parce que il y en a pas beaucoup, puis il faut essayer de trouver des endroits pour l'aider à nidifier. Il y a un groupe qui a fait beaucoup pour justement les milieux humides, c'est Canard illimité. Si on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Marais Léon Provencher, qui est devenu un des meilleurs sites au Québec pour l'observation des oiseaux.
Qui est situé où exactement?
Qui est situé à Neuville. C'est un des très bons endroits pour observer les oiseaux de milieu humide, puis dont le petit blongio qui niche justement là. Ça fait pas bien des années qu'il niche là. Autrement dit, ils ont créé un habitat propice pour cette espèce-là et aussi différentes autres espèces, comme le galinul d'Amérique, la foulque d'Amérique niche là aussi, plusieurs espèces, butard d'Amérique. C'est vraiment intéressant de voir comment ce milieu-là évoluer.
On peut créer des zones favorables.
On peut créer des zones favorables. C'est sûr qu'on en détruit, mais c'est toujours intéressant d'avoir des mesures compensatoires ou trouver des moyens pour essayer d'aider les habitats qu'invariablement on touche lorsqu'on fait de la construction. Puis c'est normal d'en faire. Là.
Exactement. Je pense justement, M. Cyr, au Marais du Nord, ici, à Québec. C'est un marais qui est mis là en place, mais qui est sauvegardé par une équipe de bénévoles. Et j'imagine que ça peut aider différentes variétés d'oiseaux.
Absolument. Ça, c'est superbe aussi comme milieu. Là. Il y a un milieu forestier, coniférien. Il y a des marais. Il y a un lac. Il y a le lac Saint-Charles qui est là, qui est très intéressant pour l'observation des oiseaux aussi. C'est ce genre de milieu-là et ce genre d'endroit-là, puis je peux en nommer un autre, on parle du parc linéaire de la rivière Saint-Charles, qui a 32 kilomètres entre le lac Saint-Charles, justement, et jusqu'à Limoilou, se rend jusqu'à Limoilou, il y a 32 kilomètres de sentiers qu'on est capable de faire et faire l'observation des oiseaux. C'est protégé, c'est entretenu, c'est super intéressant pour l'observation des oiseaux. C'est ce genre de milieu-là qu'il faut trouver un moyen d'aller chercher et protéger.
Alors donc, quand on pense solution, c'est possible. Moi, j'entends parler aussi ces dernières années, par exemple, par les constructeurs. Ils coupent des arbres pour faire une maison, mais la ville leur demande de replanter des arbres. Et ça, c'est très, très bien. J'imagine que c'est pas mauvais pour les oiseaux. Mais vous me disiez, en préparation de notre entrevue d'aujourd'hui, que le ministère du Transport aussi, maintenant, est à pied d'œuvre et qui fait des réalisations très positive pour les oiseaux.
Oui, absolument. Vous savez, les gens doivent connaître ça. C'est en plein cœur de la ville du Québec. C'est le long de l'autoroute de la capitale. Et c'est l'entrée, c'est à la jonction, en fait, nord-ouest de la jonction avec la capitale et Laurentienne. Ils ont fait un étang avec des chicots à l'intérieur de ça. Puis je me souviens qu'il y avait eu à ce moment-là un peu d'étolé par rapport au coût minime, à mon avis, par rapport au coût de la construction ou des travaux de l'autoroute qu'il y avait eu là. Puis, depuis ce temps-là, j'ai décidé de suivre ça pour savoir... c'est un petit intent qui est placé près d'une autoroute. Il y a beaucoup de bruit pour savoir combien d'espèces d'oiseaux qu'il y a là. Mais en un an, j'ai observé 53 espèces d'oiseaux sur ce site-là, qui a utilisé ce site-là. C'est vraiment... c'est une mesure compensatoire extraordinaire qui a été faite là.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les oiseaux, ils ont des difficultés, mais qu'ils ont aussi beaucoup la capacité de finalement s'adapter à ce qu'on leur propose.
Oui, absolument. Il y a toujours des moyens. On est capable de... si on regarde ça, il y a... comme l'hirondelle de rivage qui a diminué beaucoup, présentement, il y a justement un groupe qui est en train de garder pour installer des nichoirs hirondelles de rivage. C'est, autrement dit, c'est des constructions avec des trous, parce qu'ils nichent à l'intérieur des trous, pour essayer de diminuer, en fait, de stopper la baisse ou d'aider cette espèce-là.
Alors, c'est comme un condo à hirondelle.
Oui, exactement. Ouais. Comme un condo à hirondelle, ou bien ça peut être simplement du sable qui est compacté à un endroit. Si c'est vertical un peu, les hirondelles vont aller creuser des trous-là, puis ils vont nicher. Ça a été fait dans le port de Québec, justement, comme essai, par le port de Québec. Puis ça a été une réussite... extrêmement rapide et efficace. J'ai rarement vu quelque chose fonctionner aussi rapidement. Autrement dit, lorsque la machinerie est en train de façonner justement ce banc de sable-là, les hirondelles attendaient au-dessus, sitôt qu'ils étaient sortis de là, ils ont commencé à nicher.
Ouais. Alors, on peut le dire, ils sont pas folles. Hein?
Non. Ils savent c'est quoi l'endroit, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour nicher. Puis si on crée quelque chose de propice à ça, ils sont capables de s'adapter.
Alors, vous nous avez parlé au tout début de cette diminution des oiseaux, mais vous nous avez beaucoup encouragé grâce à toutes les initiatives qui ont déjà porté fruit. Ça fait des bonnes nouvelles, ça.
Oui, absolument. Autrement dit, c'est une conscientisation, à mon avis, que différents groupes, au niveau société, qu'on devrait avoir si on veut que nos générations futures soient capables d'être encore capable d'observer les oiseaux.
Gérard Cyr, on se retrouvera très bientôt. Merci.
Merci.